troisième et dernière partie de Délirium environnemental dans la semaine du 22-23 février, une semaine après l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto et quelques jours après le changement dans la nomenclature, dans le nom du ministère de l'Environnement. Comme je le disais un peu plus tôt en début d'émission, le ministère de l'Environnement est mort. En fait, non. Son nom est mort. Il a été remplacé par le ministère du Développement durable et des parcs. Drôle de glissement quand même, sachant que l'environnement, bon, ben, c'est une des dimensions à prendre en compte dans une logique de développement durable, mais seulement un. C'est comme si on suivait vraiment ce que c'est dans les faits, quand on a réfléchi à ce concept-là, ça n'aurait pas de bon sens. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je le disais encore une fois en début d'émission, ce concept-là a été popularisé tout particulièrement par la parution en 1987 du document qui s'appelait « Notre avenir à tous ». Donc, qui était le rapport de fin d'enquête du rapport Brundtland, donc, qui était la commission Brundtland sur l'environnement. Et puis ça, selon certains, c'était ni plus ni moins un cri d'alarme qui visait à nous faire reconnaître, prendre conscience de la limite des systèmes naturels dans lesquels on vit. Et c'était donc un cri d'alarme visant la reconnaissance et le respect de ces limites-là, des systèmes naturels. Puis à cet effet, il soulignait l'objectif pour atteindre l'objectif du développement humain et social, le développement économique représente un moyen et le maintien de la qualité de l'environnement une condition. J'espère que vous avez pris des notes et que vous nous écoutez, M. Mulcair, parce que justement, aujourd'hui, on a trouvé important de discuter cette question-là, de ce changement de nom si soudain. Petite aventure, peut-être juste petite anecdote cette semaine en montant l'émission et surtout en essayant d'obtenir des informations de la part du ministère de l'Environnement. Il n'y a aucun document officiel qui justifie le changement de nom du ministère. Quand on appelle pour parler aux gens au ministère de l'Environnement, ils nous réfèrent tous à la direction des communications et à la direction des communications. Ils nous confirment qu'il n'existe aucun communiqué, aucun document d'orientation, nada, rien, pour nous parler des logiques tenant et aboutissant de ce changement-là.
Bref, c'est un projet de bout de napkin, ça. Ça a été fait un vendredi après-midi.
C'est le coin de la table,
hein? C'est bien réfléchi, hein?
Et en fait, moi, je me lance là, mais la plus grande réflexion que j'ai par rapport à ça, justement, si on applique ce fameux principe-là, le développement durable, on a peut-être que vous avez en tête les trois sphères où on parle justement de l'économie, de l'environnement et de l'aspect social qui doivent être harmonisés, on arrive au développement durable. Mais expliquez-moi donc, si on fait ça, si on suit cette logique-là, comment ça qu'on n'abolit pas le ministère économique?
Naturelles?
Comment ça qu'on n'abolit pas le ministère des services sociaux, mais qu'on fait ça avec le ministère de l'Environnement? Si on veut un ministère du développement durable, est-ce que ça devrait pas être au-dessus de ces
Exactement.
Autres ministères-là et garder la branche environnement et non pas soumettre la branche environnement à une logique de développement durable quand c'est simplement une partie du développement durable?
Regardez dans le discours de Jean Charest, le premier énoncé qui fait « Nous créons ainsi le ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation. » C'est le premier ministère qui a annoncé. « Ce ministère renouvelé sera appelé à jouer un rôle stratégique dans l'atteinte de la prospérité au Québec. » Tout de suite après, il rentre. Aujourd'hui, nous consacrons notre engagement dans le développement durable en élevant cette notion au rang de responsabilité ministérielle avec le ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs. Déjà là, vous voyez que c'est pas le même terme. Hein? Là, on parle du développement durable, de l'environnement et des parcs, tandis que dans les médias, on a parlé du ministère du développement durable et des parcs seulement.
Sur le site, c'est ce qui est marqué, développement durable
Exactement.
Et des parcs.
Donc, on voit que même marqué. M. Charest est un peu confus. La mission première de ce ministère sera de préserver pour l'avenir la richesse que les ressources du Québec nous ont procuré dans le passé. Donc, vous voyez le discours qui est utilisé.
Mission.
Nous ne devons pas hypothéquer pour le futur les bienfaits qu'il offrira à ceux qui nous suivent. Écoutez, y a-t-il quelque chose de moins clair que ça? Si on donne le nom du ministère de l'Environnement un concept aussi flou que ce qu'il est en train de véhiculer, comment qu'on peut s'assurer que ce ministère va avoir une fonction claire?
Okay. D'abord, c'est l'enfant pauvre du gouvernement. On sait, le ministère de l'Environnement est aucunement financé, mais je trouve que ce que Patrick amenait était absolument important, particulièrement compte tenu de l'évaluation qu'eux en font dans ce discours-là, dans ces propos-là que tu nous tiens, que M. Charest a tenu. Parce que justement, ça devrait pas être un ministère qui applique la logique du développement durable, puis après ça, qui essaie d'aller chaler les autres. Non, c'est à la tête, c'est un ministère ou c'est un groupe qui chapeaute toute la logique de gouvernance d'un État.
Et ce qui est problématique, on le voit tout de suite, dans le fond, lorsqu'on parle de développement développement durable dans la logique présentement des libéraux, c'est de faire durer le développement actuel, dans le fond. Donc, de continuer à pouvoir exploiter nos richesses et blablabla. Sauf que si on regarde ça d'un œil un petit peu avec un recul, on se rend bien compte que si tout le monde consommait et avait un rythme de vie comme les Canadiens, comme les Québécois, on a, ça prendrait 4 planètes à 5 planètes Terre pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, ce fameux schéma-là de développement ne fonctionne pas. On peut pas continuer comme ça indéfiniment. Et lorsqu'on parle, parce que c'est, on se le cache pas, là, c'est relié à des besoins économiques. On veut une grosse machine économique au gouvernement. Et la preuve la plus irréfutable, c'est que Claude Béchard, qui est maintenant le ministre du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation, blablabla, mais c'est lui le président du comité ministériel du développement durable. Mm-hmm. C'est pas Mulcair là, qui est le ministre du développement durable. C'est le ministre du développement économique qui est président du comité du développement durable. Donc, on se trouve à avoir complètement deux chapeaux qui ne fonctionnent plus.
Puis, il y a un autre comité aussi qui a été ramené en vigueur, c'est le comité des priorités. Mm-hmm. Moi, ça m'a bien fait rire, un comité des priorités, mais bon, semble-t-il qu'ils ont besoin de ça pour fixer des objectifs et des priorités. Eh bien, sur ce comité-là, donc, des priorités, M. Mulcair y est présent.
Ben oui, ben oui.
Mais moi, ce que je trouvais révélateur là-dedans, c'est qu'en fait, s'il est présent, c'est beaucoup plus parce que c'est un ami du pouvoir que parce qu'il est, j'allais dire, président du ministère de l'Environnement, mais non, parce qu'il est ministre de l'Environnement, mais maintenant du développement durable. Donc, c'est deux nouvelles donnes à prendre en considération.
Je ne sais pas si vous avez vu passer dans le Devoir la semaine passée un texte extrêmement intéressant de co-signé par Pierre Dansereau et Jean Ouimet sur justement le développement durable. Il y a une réflexion assez profonde sur le terme de développement durable et comment il devrait être appliqué dans notre société québécoise.
Juste puis, rappeler peut-être que Pierre Dansereau, c'est le père de l'écologie.
Le père de l'écologie qui a pris sa retraite de l'UQAM cette année, je crois. Hein, je
92 crois ans, monsieur. Quand même.
Ben oui, tout à fait.
Alors,
ce texte extrêmement intéressant m'a soulevé une certaine passion pour ce que implique réellement le développement durable. Et puis, on a la chance d'avoir plusieurs militants de quelque chose de vraiment concret en termes de développement durable. Et je pense que Jean Ouimet, qui est l'ex-chef du Parti vert dans les années 90, a vraiment approfondi sa réflexion sur la question de développement durable. Donc, j'ai voulu le rencontrer pour justement lui demander c'était quoi sa position par rapport à ce changement de nom du ministère. Donc, on va écouter ce que M. Ouimet a à dire.
Bonjour, M. Jean Ouimet. Vous avez publié la semaine passée, co-signé avec Pierre Dansereau, un texte dans le Devoir sur le développement durable qui faisait une analyse assez concrète de la question du développement durable. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce nouveau nom qu'on donne au ministère de l'Environnement?
Bien, ça montre comment M. Charest utilise la notion de développement durable pour pouvoir justifier toutes sortes d'actions qu'il met de l'avant qui ne sont pas du tout inscrites dans le cadre du développement durable, ne serait-ce que de créer un ministère du développement durable qui doit affecter l'ensemble des ministères, alors que la compréhension que j'en ai, c'est qu'on va partir du ministère de l'Environnement avec ses budgets, avec son organisation, pour s'occuper de développement durable, alors qu'ils ont de la difficulté à s'occuper que d'environnement, puis le concept de développement durable, c'est un concept beaucoup plus large, qui doit avoir un comité interministériel au développement durable, alors ça, c'est pas du tout abordé. Alors, je pense que c'est encore de la poudre aux yeux qu'on nous lance sous le prétexte du développement durable pour nous faire croire qu'ils sont prêts, alors qu'ils ne le sont toujours pas.
Donc, vous voyez une position intéressante, puisqu'on voit que le ministère de l'Environnement n'a pas la taille. Vous savez, c'est 1600 personnes, c'est un des plus petits ministères au sein du gouvernement québécois. Donc, M. Ouimet qui nous dit, écoutez, il n'y a pas la stature pour occuper ce poste autant important qui devrait en fait chapeauter tous les autres ministères. Donc, la position de Jean Ouimet est très intéressante là-dessus, je pense que c'est assez clair.
On va s'arrêter ici au retour, on continue de parler de développement durable et surtout du nouveau nom du ministère de l'Environnement.
Non, mais combien?
Vous écoutez toujours Delirium environnemental et on s'inquiète toujours du changement de nom inopiné, ou plutôt impromptu, du ministère de l'Environnement pour devenir le ministère du Développement durable et des parcs. Dans les points positifs, il y a le fait qu'on a ramené les parcs au ministère de l'Environnement, gros guillemets, développement durable, mais pas la faune, non, la faune et les parcs, c'est séparé. Une chose qui est intéressante, je trouve, dans ce que M. Ouimet disait, c'était justement doté d'outils, parce que c'est bien beau des termes vides, mais des mots sans outils concrets, moyens, si on ne se dote pas vraiment de moyens. Et c'est d'autant plus problématique dans le contexte où est-ce qu'on tient présentement des consultations concernant le plan de développement durable. Et les intervenants à qui j'ai parlé à ce sujet-là, que ce soit du RQJE, Gabriel Pelletier ou M. André Boutillier de Haut Secours, disaient que c'était quand même assez aberrant que ça ne soit toujours pas terminé. Et puis que dans la façon dont ça se produisait, dont on tenait ces commissions-là, cette consultation-là, c'était juste pour aller comme galvauder encore plus le terme et on ne dotait toujours pas le Québec des outils dont il aurait besoin pour mettre en place de réelles stratégies de développement durable.
Ah non, c'est puis ça concorde tout à fait aussi avec la vision de M. Charest. Je sais pas si Patrick, tu voulais dire quelque chose.
Ah, Charest. Moi, je vais rajouter après. Certainement. Mais juste vous rappeler qu'en 92, c'était le sommet de Rio.
Et M. Charest.
Et M. Charest était présent. Rio. Donc, M. Charest devrait être au courant un petit peu de ce que c'est le développement durable. Eh bien, M. Charest a fait des déclarations à l'emporte-pièce. Écoutez, sa première déclaration lorsqu'on signe Kyoto, c'est qu'on va faire une autoroute 50. Je veux dire, on développe des autoroutes au Québec, on ne pense pas à faire du transport en commun. Je veux dire, j'ai rien à la base si on veut améliorer notre système routier, mais au moins qu'on améliore le système de transport en commun pour faire quelque chose de cohérent. Lorsqu'on parle de lancer la centrale du Sorois, lorsqu'on parle de Bécancour, je veux dire, il y en a plein des exemples. On n'a pas d'air protégé au Québec. Monsieur Charest utilise le développement durable à gauche, à droite, quand il le veut. Et là, ça devient une coquille vide et c'est là que c'est dangereux.
Je pense que le meilleur exemple, c'est dans son discours à la Chambre de commerce lundi qui vient de passer, en essayant d'expliquer justement la nouvelle orientation suite à ce remaniement, M. Charest a touché légèrement les sujets ayant lien à la ville de Montréal. Et vous savez qu'en ce moment, le nouveau cheval de bataille des groupes écologistes, c'est vraiment le pont reliant Laval à Montréal, donc le prolongement de l'autoroute 25. Et puis M. Charest a dit clairement qu'il souhaitait désengorger Montréal en construisant l'autoroute 30 et en assurant le prolongement de l'autoroute 25, clairement dit dans ses mots, exactement comme ça, quand le BAP n'a même pas pris position là-dessus. On va attendre ce qu'il va se dire, mais déjà on voit l'orientation psychologique de M. Charest qui va complètement à l'encontre même de la philosophie du développement durable, parce qu'on peut pas galvauder ce terme-là un peu partout, le mettre dans toutes les sauces et puis s'assurer d'une certaine crédibilité si, je veux dire, on l'applique dans aucun de nos projets. Mm-hmm. C'est comme incohérent. Donc moi, je suis outré, alors je vais me rouler à terre maintenant.
Non, arrête-toi tout de suite. Tu voulais plutôt que tu nous parles du fait que tu as aussi rencontré Jean-François Gagnon de la SNAP. Peut-être juste nous rappeler la SNAP.
Ben oui, la SNAP, la Société pour la nature et les parcs, parce que vous savez, la question des parcs et de la faune a aussi refait de surface. Donc j'ai demandé en premier lieu Jean-François Gagnon, qui est directeur général de la Société pour la nature et les parcs, ce qu'il pense justement de ce changement de nom. Donc on écoute Jean-François Gagnon.
Est-ce que le fait que les parcs soient maintenant de retour avec l'environnement est une bonne nouvelle?
Oh oui, pour nous à la SNAP, on croit que c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on demande que les parcs soient sortis là de l'espèce de carcan du ministère des Ressources naturelles. On sait que la FAPAC avait été abolie là, l'hiver passé. Et depuis le retour des parcs au MRN, on avait certains problèmes. Faut pas se le cacher, le ministère des Ressources naturelles a une vision économique, ce qui n'est pas toujours approprié dans le cas des parcs. Alors que le ministère de l'Environnement, ou le défunt ministère de l'Environnement, a une vision nettement plus axé sur la protection des écosystèmes. Alors, dans ce cas-ci, que les parcs se retrouvent avec l'environnement ou le nouveau ministère du Développement durable, ça me semble une excellente idée. Et on verra là, ce que fera dans un premier temps M. Molcaire avec les situations délicates au parc d'Oka, où est-ce qu'on veut passer un oléoduc à travers d'un parc, ce qui est formellement interdit par la loi sur les parcs, et le parc du Mont-Offord, qui est en train de devenir un deuxième Mont-Tremblant. Du moins, on voudrait ouvrir la porte à un deuxième Mont-Tremblant au parc du Mont-Offord. Alors ça, c'est deux dossiers chauds qu'on s'attend que le ministre Molcaire là, mette ses culottes et vraiment fasse prévaloir la protection des écosystèmes et des sites naturels avant là, toute forme de développement.
Et quoi penser du fait que le parc est maintenant séparé de la faune et que la faune est restée au ministère des Ressources naturelles?
Eh bien, ça représente un certain malaise actuellement. Je crois que la faune, elle est très souvent perçue seulement au niveau des espèces qui sont récoltées. On parle de l'orignal, du chevreuil, de l'ours noir et quelques autres espèces. Alors que nous, on prend une vision plus globale. On croit que la faune devrait vraiment englober l'ensemble des espèces et non pas seulement celles qui sont récoltées. Et oui, effectivement, si on exclut les espèces plus récoltées, les espèces plus commerciales, le dossier de la faune devrait se retrouver là, au ministère de l'Environnement.
Une affaire peut-être qui est intéressante à mentionner, c'est la question justement des parcs. Vous savez que les aires protégées et les parcs, c'est deux choses. Hein. Au Québec, on est très arriéré point de vue aires protégées. On a en fait moins de 1% du territoire québécois qui est protégé contre toute exploitation commerciale. Les parcs, c'est autre chose. Les parcs étant plus une attraction touristique qu'une aire protégée. Et vous savez que jadis, les parcs étaient au ministère des Ressources naturelles et les aires protégées étaient au ministère de l'Environnement. Donc, le DPEDD, la Direction du patrimoine écologique et du développement durable, s'occupe des aires protégées, puis il y avait Parc Québec qui était au MRN. Donc, le fait que ça revienne au parc, que ça revienne au ministère de l'Environnement, en tout cas du feu, au ministère de l'Environnement, c'est extrêmement intéressant.
C'est sûr que c'est un point extrêmement positif. En fait, aux intervenants à qui j'ai parlé, m'ont dit la même chose, que la seule chose qui était intéressante là-dedans, c'était le retour des parcs, puis qu'il fallait.
Je suis positif. Écoutez, lorsqu'on parle du MRN, le ministère des Ressources naturelles, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie qui est vraiment le fun. On vient de perdre notre girouette au Québec. On vient de perdre sa maman, qui était la girouette du ministère des Ressources naturelles, qui prenait position à gauche, à droite, changeait de côté sur roi, une fois sur roi, pas de fois sur roi, je sais plus, une consultation. Et voilà, plus de sa maman.
C'est pas girouette. Personnel, M. Hamad, mais quand même, quelques bonnes raisons de se réjouir.
Changer de côté ou vous êtes trompé?
Et oui, de retour à Delirium environnemental, et comme la langue de bois n'est pas notre fort, j'aimerais dire que les propos de M. Gagnon m'ont troublé un peu le fait qu'on utilise la récolte pour parler d'animaux et de mise à mort. Je trouve ça un peu dur, mais c'est ma fibre sensible à moi. On a donc parlé à d'autres intervenants du milieu.
C'est le fait utilisé pour la chasse, en fait.
Oui, je sais.
Si on a
je
mieux
sais.
Une chasse ou l'école.
Je sais, comme l'écarissage pour l'abattoir, comme ça enlevait un peu de la douleur animale impliquée là-dedans, mais c'est un tout autre
comme
sujet.
Comme le manicure pour la coupe des ongles.
Ah, penses-tu? Il faudra que tu m'expliques après à la bière. Donc, on a. Moi, de mon côté, j'ai voulu parler à plusieurs intervenants aussi. J'ai donc discuté avec M. Harvey May de l'UQCN. Ils ont émis un communiqué fort intéressant sur, justement, ça a été dans les premiers à réagir, justement, au changement de nom du ministère. Somme toute positif, ce qui m'a quand même surpris de la part de M. May, mais si vous voulez, on l'écoute tout de suite.
Nous avons émis un communiqué le jour même. Après avoir vérifié, parce qu'il y avait confusion même entre le discours de, entre l'annonce et le discours de M. Charest qui mentionnait environnement. Pour nous, l'important de l'annonce vendredi était de reconduire le mandat de M. Mulcair en ce qui a trait au développement durable. Et le nom est maintenant consacré. Il reste juste deux ministères qui ont le nom développement. Qu'on ait le nom environnement ou non, ne nous a pas, nous a pas troublé. Ce qui est peut-être plus troublant, c'est que le ministre responsable du développement durable pour le gouvernement gère un ministère qui ne fait aucun développement. Et c'est peut-être ça qui est la réponse que nous avons. Le ministère de l'Environnement a comme mandat de gérer la réglementation, d'acquérir des connaissances en matière environnementale, et avec l'ajout des parcs à son nom, qui pourraient quand même être biodiversité ou conservation, il a le mandat aussi d'avoir l'œil du gouvernement sur tout ce qui concerne le maintien de la biodiversité et des écosystèmes.
Alors, donc, on vient d'entendre M. Harvey May de l'UQCN. Union québécoise pour la conservation de la nature. Je m'excuse, il y avait une petite distorsion. Donc, un commentaire somme toute positif. Si vous permettez, rapidement, en terminant, on veut juste vous faire entendre M. André Boutillier, président de la Coalition Eau Secours pour une gestion responsable de l'eau, qui, lui, n'est pas financé et qui, donc, n'a pas sa langue dans sa poche. C'est pas du tout une attaque personnelle des autres qui nous ont jasé. C'est juste que M. Boutillier est reconnu pour ça.
Oui, bien écoutez, c'est dans la suite des choses. On se souviendra qu'immédiatement après l'élection, le ministre de l'Environnement a enlevé au nom de son ministère l'appellation « eau » parce qu'elle était ministère de l'Environnement et de l'eau. Et ça donnait le ton immédiatement à l'alignement qu'il voulait de nos ministères. Quant à l'eau, il mettait ça une priorité comme toutes les autres. Ensuite, il a définancé les 13 grands groupes environnementaux pour pas qu'il y ait trop de débats, puisque les gens ayant plus d'argent pourront pas autant argumenter. Ensuite, il a déposé son avant-projet de loi sur le développement durable, où la politique nationale de l'eau n'y apparaît plus. C'est plus là, dans le projet de loi, en tout cas, ce qu'il a déposé. Et là, il nous arrive avec un changement de nom du ministère, où on nous met le développement, et il n'y a même plus le mot environnement. Ce qui me faisait, moi, il me semblait que l'environnement, ça s'organisait pas, là. Quand le ministère a été créé au Québec, c'était pour protéger l'environnement des gens, le milieu de vie. C'était pas pour développer. On a le ministère des développement des richesses naturelles qui s'occupe de ça. On a le ministère d'industrie et commerce qui s'occupe de ça. Donc, en l'environnement, qu'est-ce que ça vient faire là? Sinon, tasser le mot environnement pour mettre celui de développement. Que ce soit durable ou pas, moi, quand j'entends le premier ministre dire, comme il a dit à la télévision récemment, dans le cas des motoneiges, écoutez, je vais me servir de ces mots à peu près, là. C'est à la télévision, je me souviens pas quel poste, mais il le dit. Soyez assurés que nous allons protéger de façon durable l'industrie de la motoneige pour faire en sorte que les générations futures puissent en profiter. Si c'est pas de la démagogie, tout ça, c'est un manque d'éthique politique incroyable. Ça n'a pas de bon sens faire affaire avec des gens qui se servent des mots dans ces contextes-là. Parce qu'en politique, il n'y a pas de mots innocents. On sait comment c'est important, les mots. Quand on veut privatiser, on sait que la population ne veut pas. Donc, on dit partenariat avec le privé. Ça veut dire privatiser. Mais le mot partenariat est plus doux. Alors, développement durable, ben oui, le durable vient mettre une petite douceur au développement. Et là, encore qu'il y a encore quelqu'un qui penserait que le ministère de l'Environnement va être sur son bord en tant que citoyen pour protéger son environnement, on prend bien soin d'enlever le mot environnement.
Et c'est déjà la fin de Délirium environnemental parce qu'une heure et demie, ça passe trop vite. Alors, coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine, messieurs.
Eh bien, je me lance avec un coup de masse monumental. La déclaration de Charest de vouloir vraiment construire l'autoroute 25 et j'en profite donc pour plugger un événement qui se passera ce mercredi au Centre Saint-Pierre. C'est le point final sur le projet du Tour de 25. Le Centre Saint-Pierre est au 1205 rue de la Visitation. Ça se passe à 19h. On aura entre autres Steven Guilbeault de Greenpeace, Normand Parisien de Transport 2000, M. Perrault du CRE Montréal, Amir Kadir de l'UFP, Richard Bergeron de Projet Montréal, qui vient nous dire à quel point que c'est un projet de non-sens et qui va complètement à l'encontre du développement durable. Soyez là, Centre Saint-Pierre, 19h.
Ça sera sur notre site Internet dans la section calendrier.
Eh bien, mon coup de cœur va à M. Jean-Luc Allard, vice-président de SNC-Lavalin Environnement, pour sa déclaration. On va avoir l'air très fou. Et pourquoi il disait ça? Parce qu'on va accueillir la conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat à Montréal. Parce que le Canada a rien fait, puis monsieur Allard est gêné d'aller en Europe et de dire que justement on fait rien au Canada. Fait que le Canada va avoir l'air fou! C'est lui qui l'a dit.
J'envoie à tous ceux et celles qui n'utilisent plus de sacs de plastique par pure volonté. C'est un coup de cœur, puisque vous savez, On est en train d'accumuler une quantité phénoménale de sacs de plastique sur cette planète. Ça prend environ 400 ans pour décomposer ce cher sac de plastique. Et malheureusement, on est encore assez arriéré point de vue gestion de ce plastique-là. On parle qu'une tonne de sacs vaut environ 30$ selon Recycle Québec. Eh bien, cette matière première, ça vient directement du pétrole. Et vous êtes en charge de pas trop l'utiliser puisque ça implique une pollution flagrante. Alors, tous ceux et celles qui prennent leur sac à dos, leur sac en jute ou qui carrément traînent leur épicerie dans leurs bras. Félicitations, un coup de cœur.
Eh bien, moi, mon coup de cœur va maintenant aux Canadiens et Canadiennes, les 50% qui sont prêts à payer 25% de plus pour un véhicule écologique, soit la moitié des Canadiens qui sont prêts à payer plus cher pour un véhicule écologique. Bien, bravo, et mon coup de main, si vous en doutez, va au gouvernement qui n'a pas encore mis en place des programmes remises, redevances pour inciter les gens à acheter des véhicules qui consomment moins ou à les faire payer plus s'ils achètent des gros Dodge Ram.
Eh bien, au calendrier cette semaine, je vous invite à écouter TVA. C'est pas que je crois à la convergence, c'est qu'il y a une émission spéciale mercredi midi, donc tout de suite après l'émission pour ceux qui nous écoutent sur CIBL, où en est le Mouvement Vert au Québec. Et entre autres, invité, il y aura Gabrielle Pelletier du RQGE, du Réseau québécois des groupes environnementaux, ainsi que Louis-Gilles Francoeur pour faire le point sur la question. Ça pourrait se mettre à voler très haut, cette émission, je vous le recommande.
Étienne Côté-Paluc, donc, qui se joint à vous pour vous dire que, en fait, pour faire un coup de masse, c'est à mon tour, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-François Nadeau, qui a écrit un article dans le Devoir cette semaine et qui, en fait, traite Mme Laure Varidel d'Équitaire de consumérisme et qui dit que c'est dommage d'orienter aussi pauvrement un militantisme dont les intentions sont à l'évidence si bonnes. Eh bien, monsieur, faites vos devoirs. Je veux juste dire ça parce que vraiment, c'est absolument absurde. Il raconte des histoires. Je comprends vraiment pas ce que c'est le tout ce qui est équitable. Donc, gros coup de masse à M.
Gros coup de masse. Du devoir, c'est rare que les autres se plantent. Un dernier petit coup de cœur ou coup de masse en terminant?
Ben, en fait, ça va être un gros coup de masse au Canada qui a décidé de ne pas bannir le pesticide 2.4D. Je ne sais pas si vous connaissez ce pesticide. Ça fait longtemps qu'on l'évalue à savoir s'il est toxique pour la santé. Et malgré les pressions immenses, ben, en fait, à cause des pressions immenses de l'industrie, notamment de Monsanto, Syngenta et Bayer, eh bien, le Canada recule et ne bannira pas ce pesticide. Alors, nous serons donc tous exposés.
C'est...
Malheureusement, j'ai plus le temps de
Ben non, mais j'allais dire qu'il faudrait presque qu'on fasse une émission spéciale à nouveau sur la question des pesticides, parce que s'il y a quelque chose qui est lié aux problèmes de santé, c'est bien ce qu'on étend sur les aliments qu'on mange et autres pelouses de tout genre. Vous avez écrit Delirium Environnemental, qui est aussi un site Internet que vous pouvez toujours retrouver au www.radiodelirium.net. Ça, c'est une équipe magique avant tout. C'est Patrick Bonin, c'est Nicolas Mainville, c'est Étienne Côté-Paluc à la conception du site Internet ainsi qu'à la régie. Et moi, c'était Sofiane Legendre. La semaine prochaine, vous risquez de retrouver Hugo Lachapelle et Monsieur Milo Nicolas de son prénom.
Un gros merci à Nicolas Roy de l'Institut des sciences de l'environnement pour nous avoir parlé du projet DOU de l'UQAM. On les encourage d'ailleurs.
On vous encourage.